Emmanuel Pétel, vous représentez la Commission européenne, vous êtes à la DG Agriculture. Comment, justement, ce n'est pas un jeu de mots, comment vous voyez la mise en forme, le comment de cette mise en place de ces PSE, comment vous voyez les choses, dans quel cadre voulez-vous qu'on s'inscrive?
Bien, merci pour cette invitation. Je prends le temps en ce moment de venir un peu plus sur le terrain et je prends le temps de venir plus dans l'Hexagone pour un petit peu savoir où on en est dans l'évolution de la mise en œuvre des instruments de la PAC. Donc, comme l'a rappelé Claire Brunetto, il y a donc, et comme ça a été rappelé, il y a une réforme en cours. Et donc le débat a commencé cette année au mois de juin. Donc en ce qui nous concerne, je pense que la légitimité de la PAC par rapport à l'environnement, elle est clairement affichée dans nos objectifs. Là, il n'y a pas de doute. On avait déjà un objectif environnemental d'une façon générale dans la PAC qui a été affiché lors de la dernière réforme. Et là, on a rajouté une deuxième couche pour bien s'assurer qu'on va dans ce sens. Il y a trois objectifs spécifiques pour cette politique. Une action contre le changement climatique, une préservation de l'environnement au travers de la ressource eau, sol, air, et une préservation des paysages et de la biodiversité. Ces objectifs sont dans le texte de base. Donc on pourra toujours, les défier. Mais en général, les objectifs, je pense qu'il n'y a pas de problème. Lorsqu'on est à Bruxelles, lorsqu'on est autour de la table, tout le monde peut décliner les objectifs. Tout le monde a une rhétorique sur les objectifs. Et comme vous le dites, comment on met en œuvre ces objectifs. Et c'est plutôt ça le nerf de la guerre. Alors, on a essayé d'écouter ce qui s'est passé sur le terrain à travers le verdissement. Je reviendrai quand même sur le verdissement, mais avant de revenir sur ce sujet... on a essayé d'écouter ce qui s'est passé donc dans le cadre de cette mise en œuvre et à chaque fois on essaie d'en tirer des enseignements. Donc ce qui est affiché dans la nouvelle PAC s'inscrit dans cette prise en compte des difficultés qui ont pu apparaître sur le terrain. Il est vrai qu'on affiche une nouvelle approche, un nouveau mode de gouvernance pour nous. C'est pas l'ombre d'un doute qu'on doit définir effectivement un cadre national, mais ce cadre national doit avoir une empreinte au niveau régional. On pense qu'effectivement on peut mettre dans notre cadre des certaines normes, certains principes, mais qu'ensuite il y a une valeur ajoutée lorsqu'on prend en compte, la situation locale. On prend en compte aussi les démarches locales qui sont mises en œuvre dans les cadres des régions. Pour nous, c'est important d'insister là-dessus. Et on insistera aussi sur le fait qu'on doit avoir une analyse des besoins dans ce nouveau mode de fonctionnement. C'est-à-dire qu'on voudrait avoir un plan d'action nationale qui prenne en compte justement une analyse fine des besoins, mais que ces besoins soient déclinés au niveau local pour pouvoir mieux asseoir les instruments qui sont dans la PAC, en tout cas en matière d'environnement et de changement climatique.
Ça voudrait dire, je m'excuse Emmanuel, qu'on pourrait avoir des objectifs différents selon l'échelon où on se place.
C'est pas les objectifs ils sont là, mais effectivement, en fonction des certaines priorités, on peut mettre l'accent sur certaines mesures, certaines interventions. Au niveau de l'architecture du verdissement, on parle d'architecture du verdissement, on conserve effectivement certains instruments, on va conserver la notion de conditionnalité qui date déjà de 2005, c'est quand même un instrument qui a fait ses preuves, et je reviendrai là-dessus pourquoi on conserve la conditionnalité, et on introduit, comme ça a été dit, en plus, ou à côté, des MAEC, l'éco-dispositif, dans notre langage, on appelle ça l'éco-scheme. Et par rapport à ça, pour nous, c'est une façon de dire qu'il y a une nouvelle opportunité financière, puisqu'elle s'inscrit dans le premier pilier. On a bien vu que le premier pilier était, la caisse d'abondance. Le développement rural est toujours un peu plus marginal en termes financiers. Donc là, il y a un levier qui est donc dans le premier pilier. Et ce levier, pour l'instant, on le veut obligatoire au niveau de chaque État membre, comme ça a été rappelé par Claire Brunetto ce matin. Et on se réjouit que la France défende cette idée. Après, évidemment, il y a la question du pourcentage. Donc là, on est plutôt dans une appréciation nationale, savoir en fonction des besoins qui seront mis en avant, comment on va prélever dans ce premier pilier. Alors, pour nous, c'est, je dirais, une opportunité supplémentaire et on veut quand même qu'elle se focalise sur des priorités et c'est l'environnement et le climat. Pour l'instant, on défend ça. On ne va pas au-delà. Et ce matin, on a essayé de mettre en avant qu'il pourrait y avoir aussi des investissements au niveau de l'exploitation, peut-être, comme ça a été dit, des nouvelles technologies. Nous, on est sur une notion, je dirais, d'aide à la surface, mais ça veut dire aussi une amélioration de la gestion de la terre. Donc, c'est plutôt un petit peu ce prisme qu'on a à travers l'éco-scheme. Alors, c'est un dispositif qui sera analogue au MAEC, c'est-à-dire qui sera volontaire pour l'agriculteur. Et dans ce dispositif, on prévoit, une autre façon, peut-être une alternative au calcul du montant de l'aide. Ce matin, on a rappelé effectivement que dans les MAEC, on avait une compensation, donc des coûts induits ou des pertes de revenus, et ceci avait plutôt un caractère contraignant. Dans l'éco-scheme, il est prévu effectivement de donner un bonus en plus des aides de base. Donc ce bonus, pour nous, n'a pas vocation à être limité, il peut être généreux. Et alors après, c'est une question de discussion avec les partenaires. Donc il y a quand même dans ce dispositif certaines flexibilités qui peuvent, correspondre à vos points de vue. Alors, c'est clair qu'on est dans le premier pilier et nous, on est plutôt dans un régime d'aide directe. Alors, pour nous, l'aide directe, c'est vrai que ça a une certaine annualité dans le paiement. Donc, ça suppose quand même que l'agriculteur puisse réaliser des choses dans l'année, que ça puisse être visible, concret. Donc, on ne peut pas s'acheminer, enfin, c'est à l'État membre d'en prendre la responsabilité sur un régime, d'engagement sur la durée, comme c'est le cas dans le cadre des MAEC, où on peut mesurer plutôt sur le temps certaines évolutions. Là, on est plutôt dans un système un peu plus simple. Mais ça ne veut pas dire que, justement, sur l'ensemble des outils qui sont disponibles, on peut petit à petit s'affiner sur des régimes plus compliqués, plus ciblés à travers les AMEAC, alors qu'on a déjà un financement qui a été obtenu sur l'éco-dispositif. Voilà ce que je peux dire. J'aimerais dire quand même, à travers la conditionnalité ou des mesures nous on va rester sur en fait des mesures moyens, une mise en œuvre de pratiques agricoles. Alors après, évidemment, on peut réfléchir sur la notion de résultat, surtout au niveau de l'exploitation, ça demande quand même, un peu plus d'études et d'approfondissement. Et ce que j'aimerais souligner, c'est quand même que les pratiques qu'on met en avant, les pratiques qu'on a mis en avant dans la conditionnalité et qui peuvent apparaître dans l'éco-dispositif, ça serait faire des pratiques simples, mais il y a un certain nombre de pratiques qui ont déjà été identifiées, à différents niveaux. Au niveau de la FAO, par exemple, il y a un guide de bonnes pratiques pour la gestion des sols. Même si on n'a pas de directive communautaire, il y a quand même un certain nombre d'éléments qui sont sur la table, qui ont été, validés. Et l'heure n'est plus de savoir si ces éléments sont utiles ou pas utiles, et savoir comment on les met en œuvre au niveau de l'exploitant. Sachant que si on a des normes, si je parle par exemple d'une bonne, dans la conditionnalité, je parle d'une rotation des cultures, ou si je parle d'une couverture des sols, je pense que ces éléments ont leur pertinence. Donc c'est l'occasion de pouvoir, bien expliquer leur pertinence et de pouvoir les mettre en œuvre.
Merci beaucoup, Monsieur Pétel. Je précise qu'on a eu un petit souci de diffusion des slides et vous avez assuré, malgré tout, sans vos slides. Merci beaucoup. Alors, je retiens que, dans le cadre européen, on souhaite ce que vous appelez des éco-schemes, mais vous me coupez si je dis une bêtise, qui serait dans le premier pilier, d'un montant qui serait laissé à la liberté de chaque État membre, avec un caractère obligatoire, mais obligatoire par État, mais volontaire pour l'agriculteur, et des objectifs qui pourraient être déclinés ou accentués à chaque échelon, avec des objectifs quand même généraux qui seraient l'environnement et le réchauffement climatique. Petite question, est-ce que le bien-être animal en fait partie ou pas du coup ?
Pour l'instant, la question du bien-être animal, on l'a pas identifié. On peut évidemment avoir des systèmes, je dirais, herbagers ou des systèmes d'exploitation qui concourent au bien-être animal.
Qui participent au bien-être.